chronique historique avec notre historien en herbe, notre préféré, Jérémy Rivard. Bonjour.
Bonjour Simon. Comment vas-tu premièrement?
Tu le sais, quand on commence une chronique historique, ça va toujours bien.
Oui, je te sens heureux quand j'arrive à la station, que je te vois m'accueillir à bras ouverts, tirer ma chaise devant le micro, tout ça. Je vois que tu es heureux, en effet.
Je m'excuse, ce matin, j'avais pas de réserve de pétales de fleurs pour te faire un chemin tel un prince à New York. Mais bon, une prochaine fois.
Ben oui.
Dans quel univers nous amènes-tu ce matin?
Ben comme j'ai dit la semaine dernière, je voulais faire deux épisodes, OK? Alors cette semaine et la semaine prochaine, on va faire deux épisodes qui marqueront le 100e anniversaire de la ville de Témiscamingue.
Oui.
Ça arrive cette année, en 2021. Alors en 1921, la fondation, dans le fond, officielle, je l'explique un peu pourquoi je dis ça, mais la fondation officielle de la ville de Témiscamingue, qu'on devrait dire Témiscamingue en passant, hein, parce qu'il n'y a pas le UE à la fin, alors oui. Témiscamingue. Alors, comme j'ai dit, c'est pour souligner cet événement-là. Ça commence à la deuxième moitié du 19e siècle, autour des années 1850, où est-ce que les compagnies forestières voient le potentiel justement forestier du Témiscamingue. On commence à explorer un peu le territoire. On se rend compte qu'au Témiscamingue, dans le nord-ouest québécois, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle à l'époque, le Témiscamingue région n'existe pas.
Oui.
On se rend compte qu'il y a beaucoup de forêts de pins, de grands pins majestueux aux alentours du lac Témiscamingue.
À l'époque, c'est fourni, ouais. c'est très ouais. charnu. Il y a beaucoup d'arbres ouais. par mètre carré.
Ouais. Voilà. Et encore aujourd'hui, je vais expliquer un peu comment ça s'est déroulé. Encore aujourd'hui, quand vous en allez à Témiscamingue, il y a encore les grands pins, des majestueux grands pins qui sont là, entre Laniel et Témiscamingue, et c'est vraiment beau. Mais il faut se dire que entre 1850 et 1950, la grande majorité de cette forêt-là a été abattue, surtout les grands pins. Je ne veux pas dire toute la forêt, mais les grands pins ont été abattus pour l'usine qui va naître de pâte et papier. Alors, comme j'ai dit, on est au début des années 1800. On envoie le bois, surtout sur la rivière des Outaouais, parce qu'on n'a pas encore de route qui relie le Témiscamingue au Grand Centre. Alors, si vous faites des liens avec les derniers épisodes que j'ai faits, 1850, il n'y a pas de route et ça va aller vraiment jusqu'à... Pas milieu 20e siècle, mais autour des années 1940-50, où est-ce qu'on va relier la région par des routes au reste de l'Ontario, hein, du Témiscamingue ontarien, puis du reste du Québec. Alors, on met ça sur la rivière des Outaouais, sur le lac Témiscamingue. Ça descend jusqu'au Grand Centre. Ça prend des mois et des mois. On a des draveurs, les draveurs qui acheminent ce bois-là au Grand Centre. En 1888, Alex Lumsden. Est-ce que tu te souviens de Lumsden? J'en ai parlé.
Oui. Propriétaire
du météore.
Oui, voilà.
Oui, voilà. Mais Alex Lumsden, qu'on a parlé dans notre épisode sur le météore, justement, fait construire la première scierie de la région sur la rive du ruisseau Gordon. Le ruisseau Gordon, c'est le petit ruisseau qui traverse Témiscamingue jusqu'à la salle d'autorité.
Oui.
Où est-ce que le centre, la gare de Témiscamingue, que je vais parler la semaine prochaine, mais sur ce ruisseau-là, on construit une petite centrale. Qu'on va appeler par la suite en 1917, dans le fond, la Riordan Pulp and Paper construit un moulin aux alentours de cet endroit-là, un moulin de pâte et papier, et la ville est officiellement reconnue en 1921, parce que je ne sais pas si tu te souviens, Simon, mais j'ai parlé dans les dernières chroniques du Lonceau.
Oui.
Hein, on disait le Lonceau, on s'en va au Lonceau. C'est Témiscamingue, c'est la ville de Témiscamingue, mais en 1921, ça devient une ville parce que, justement, la Riordan Pulp and Paper va faire construire des habitations, hein, pour les travailleurs qui vont œuvrer à Témiscamingue. Et puis l'urbanisme de la ville de Témiscamingue, est-ce que tu la vois un peu dans ta tête, comment c'est fait, les maisons, tout ça?
Oui, ça me donne un peu une idée. Là,
C'est différent.
Oui, tout à fait.
C'est différent du reste du Témiscamingue. C'est, le reste du Témiscamingue, c'est très français comme architecture, etc. C'est très canadien-français. Tandis que la ville de Témiscamingue, on va faire appel à Thomas Adams. Thomas Adams qui va dessiner la ville, qui est un urbaniste. Il va dessiner la ville et puis va en faire une cité-jardin. Et puis la cité jardin, dans le fond, ça veut dire qu'il va y avoir des espaces verts, une grande fontaine. Alors, on a une fontaine à Témiscamingue.
Tout à fait.
Alors, et aussi, cet urbaniste-là, qui est un Canadien, pas un Canadien anglais, mais un Anglais qui vient de la Grande-Bretagne, va faire en sorte que les habitations, c'est très anglais. Hein?
Oui.
C'est très anglophone, c'est très... ça ressemble un peu à New Lesker, on s'entend. Alors, pourquoi que, justement, à Témiscamingue, les maisons, les habitations sont faites de même, surtout dans la partie, je veux dire, le vieux Témiscamingue, dans la vallée, dans les hauteurs, eh bien, c'est à cause de cet urbaniste-là, Thomas Adams. Alors, la position géographique de la ville est très importante pour les investisseurs. Okay? C'est au nord-ouest, comme j'ai dit, les grandes forêts de pins qui sont très importantes. Et puis, la rivière des Outaouais qui offre plus de 500 km de voies navigables dans le fond, à l'intérieur du territoire et puis qui se rend naturellement comme ça dans les grands centres où sont implantées les plus grandes séries du Canada qui commencent. 1850, on est encore à l'époque du Canada uni, c'est sous l'acte d'union, ce n'est pas encore un pays le Canada, on parle du Canada ouest qui est l'Ontario d'aujourd'hui et puis le Canada est qui est le Québec, mais les grands centres c'est toujours dans ce temps-là Toronto et surtout au Québec, Montréal, Trois-Rivières, Québec. Alors voilà mon cher pour cette première chronique, la semaine prochaine, la suite de l'histoire de la ville de Témiscamingue et puis je veux en profiter... aujourd'hui, pour vous dire qu'il existe un site web de Sur la Terre des Hommes, le podcast. Alors, si vous voulez écouter tous les épisodes, si vous voulez lire les textes que j'ai écrits sur différents sujets, que ce soit historique ou d'actualité, c'est le Sur la Terre des Hommes podcast, en un seul mot, Sur la Terre des Hommes avec un S podcast.ca. Et puis, vous pourrez justement écouter et puis lire tout ce qui a été fait avec ce merveilleux podcast. Et puis, on a notre page Facebook, Sur la Terre des Hommes, Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Et puis, le Patreon, si vous voulez nous encourager avec un petit 2$ par mois, ça serait très apprécié pour encourager le travail. Et puis, je dis ça, mais c'est pas juste mon travail, c'est celui de mon comparse, Jonathan Saint-Pierre, Jonathan le prof, qui est à Rouyn-Noranda, qui est avec moi dans cette aventure depuis un an. Alors, pour nous encourager, parce que c'est bénévole qu'est-ce qu'on fait là.
Okay? Oui.
Tout le podcast, on est rendu à 150 épisodes et plus. Tout ça est bénévole. Alors, pour nous encourager, le patreon.com/SLTDH. Et puis, on vous attend.